Bien bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes vendredi le 15 juin, et nous avons l'équipe au grand complet ce vendredi. Alors, je salue immédiatement Francine Forget qui a tenu le fort pendant les deux derniers vendredis. Bravo, Francine!
Merci! Tellement heureuse de vous retrouver, Hélène et Catherine. La solidarité, quand même, ça nous donne des ailes, hein? C'est ça. Alors, okay, oui. On reprend notre rythme habituel, je
Absolument.
Dirais.
Absolument. Oui. Et voulez-vous nous faire part de vos sujets?
J'aurais aimé ça pour souligner votre retour, avoir un petit topo Bitcoin, mais j'en ai pas. Alors donc, c'est ma déception de la journée, mais je vais vous parler beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui.
Ah, ouais. Ça me plaît.
Oui.
Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, vous?
Merci. Ah, moi, ravi, je reviens de vacances.
C'est vrai?
Et oui.
Bien reposé.
Ah, absolument, reposé, la tête pleine de belles images, c'est sûr. Et Catherine, ce matin, vous allez nous parler de...
Je vais lire une lettre de Valérie Plante et je vais aussi vous entretenir sur le premier, tout premier réseau social du 19e siècle, 1947, pardon, le 20e siècle, 1947, à peu près, le premier réseau social. J'ai hâte de vous en parler tout à l'heure.
Ben, voilà. D'entendre ça aussi.
Mm-hmm. C'est dans un article dans le Nouveau Projet. Voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour, Mathieu.
Bon matin. Oui. Il faudrait que je parle devant mon micro. Ça
oui.
aiderait.
C'est ça. Tu nous le dis de le faire pourtant à nous.
Hein? Ben oui, mais j'étais pas prêt.
Le cordonnier mal chaussé, oui, Hélène.
Un régisseur non régi, si on peut dire. Alors voilà, bonjour. Bien, je suis contente de vous retrouver.
Moi aussi.
Alors voilà, Hélène Bédard au micro. Alors finalement, c'est moi là, qui parle. Alors je vais vous parler de sujets, évidemment, mes sujets d'actualité qui touchent le troisième âge, le senior, mais je vais vous parler aussi de l'amour de la vie. Un très beau texte que je vais vous lire tout à l'heure. Alors, nous vous revenons dans un petit moment. Alors, nous revoilà en studio et Mme Francine Forget nous amène dans ses textes.
Oui, intelligence artificielle et, je dirais, enregistrement, imitation de la voix. Alors, c'est un texte paru dans l'actualité, l'édition de juillet 2018, signé Marc-André Sabourin, qui s'intitule « Qui dit vrai? » Grâce à l'intelligence artificielle, une jeune pousse montréalaise peut imiter n'importe quelle voix et lui faire dire n'importe quoi. Pourra-t-on longtemps encore se fier à ce que l'on voit et entend? Quand Barack Obama a pris le micro au printemps 2017 pour vanter les prouesses d'une cool start-up de Montréal, l'effet a été immédiat. Investisseurs et journalistes ont cogné à la porte de Lyrebird. La petite entreprise d'intelligence artificielle aurait eu de quoi être fière si elle n'avait pas elle-même fabriqué l'extrait audio de l'ancien président américain. Lyrebird est maître dans l'art de reproduire la voix. À partir d'un enregistrement vocal d'à peine une minute, son algorithme peut imiter n'importe qui et lui faire dire n'importe quoi. Céline Dion, qui clame son amour pour la pizzeria de votre quartier. Donald Trump, qui déclare la guerre à la Corée du Nord. À l'auditeur de déterminer si c'est vrai ou faux. Si vous pensez que la vérité a la vie dure ces temps-ci, vous n'avez encore rien vu. Lyrebird n'est que l'une des nombreuses entreprises d'intelligence artificielle qui tentent de créer des sons ou des images indiscernables de ceux de la réalité. Avec sa posture bien droite, le PDG de Lyrebird, Alexandre de Bébrisson, projette une image de perfection semblable à celle de ses robots humanoïdes dans les œuvres de science-fiction. Créer une intelligence artificielle aussi évoluée que ses personnages imaginaires est le but ultime de l'entrepreneur de 28 ans, et la voix est une composante de cette quête. Aussi impressionnant soit-il, les extraits audio mis en ligne à ce jour par Lyrebird ne tromperont personne. en partie parce que la jeune pousse indique expressément la facticité de ses créations, mais surtout parce que les voix imitées ont tout un je ne sais quoi d'artificiel qui les classe automatiquement dans la catégorie robot. Ce que Lyrebird souhaite faire avec cette technologie n'est pas clair pour le moment. La jeune pousse a bien quelques projets pilotes, dont un avec une agence de publicité qui souhaite ressusciter la voix d'une personnalité décédée. Mais la priorité des trois cofondateurs, tous des étudiants de la sommité québécoise en intelligence artificielle Joshua Benjo, est d'améliorer la qualité de leur algorithme. L'approche « on construit et on verra » fréquente dans le secteur techno ne devrait pas être appliquée au champ de l'intelligence artificielle, croit l'ancien ingénieur logiciel Char Avin. Cet expert, qui étudie désormais les risques existentiels à l'Université de Cambridge, pensez à tout ce qui menace l'humanité, de la bombe nucléaire à la grippe aviaire, croit que trop de chercheurs sous-estiment le mauvais usage qui pourrait être fait de leurs algorithmes. Ils créent des technologies, puis d'autres personnes se trouvent aux prises avec les conséquences. Déjà, des amateurs se sont emparés des techniques d'intelligence artificielle pour substituer les visages d'acteurs dans des films. Des extraits en ligne montrent ainsi Nicolas Cage dans la peau d'Indiana Jones à la place de Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Hélas, cette technique est aussi utilisée pour insérer des vedettes ou de petites amies dans des films porno sans leur consentement. Et encore, cet exemple fait pâle figure en comparaison du contenu du rapport sur le mauvais usage de l'intelligence artificielle publié récemment par 26 auteurs, dont Shahar Avin. Ce document recense une vingtaine de dérapages possibles à court terme, dont des fausses nouvelles audio et vidéo hautement réalistes qui menacent la sécurité, l'économie et la démocratie. Dans le climat actuel, imaginez les conséquences d'une fausse vidéo où des demandeurs d'asile s'attaquent à une dame âgée dans la rue. Loin de proscrire de la recherche en intelligence artificielle, le rapport recommande aux chercheurs de faire preuve de davantage de prudence et invite les législateurs à réfléchir aux façons d'encadrer ce domaine scientifique. « Nous avons besoin de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur », dit Shahar Avin, en donnant l'exemple du clonage humain interdit par l'ONU en 2025. L'utilisation à mauvais escient de l'intelligence artificielle pourrait aussi être contrecarrée par l'intelligence artificielle. C'est ce que tente de faire Dean Pomerleau, professeur adjoint à l'Institut de robotique de l'Université Carnegie Mellon. Dans la foulée de l'élection de Donald Trump, il a cofondé le Fake News Challenge, un concours ayant pour objectif de créer un algorithme d'intelligence artificielle capable d'assister les journalistes dans la détection des articles trompeurs. 50 équipes y ont participé l'an dernier, et bien qu'il y ait encore place à l'amélioration, les résultats donnent espoir aux professeurs. Les avancées récentes dans la synthèse audio et vidéo l'empêchent toutefois de crier victoire. Dean Pomerleau a l'impression d'assister à une course à l'armement et l'attaque est toujours plus facile que la défense. Il souhaite d'ailleurs que les participants du prochain Fake News Challenge, dont la date demeure à déterminer, se mesurent aux créations d'entreprises comme Lyrebird. Qui dit vrai dans l'actualité par Marc-André Sabourin. Et c'est dans le numéro de juillet 2018.
Merci beaucoup, Francine. Toujours des sujets intéressants. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons la lecture avec Catherine Emmanuel.
Oui, je suis toujours dans le nouveau projet de la dernière édition. J'ai envie de vous lire une lettre écrite par Valérie Plante qui relate de ses 6 derniers mois. L'article s'appelle « Mes 6 derniers mois ». Pour le rappeler, Valérie Plante est la nouvelle mairesse de Montréal et elle nous raconte son dernier trimestre. « Est-ce que je devrais signer ? Ai-je demandé à mon fils Gaël le 16 novembre lors de la cérémonie d'assermentation qui s'est déroulée au marché Bon Secours. Debout à mes côtés, alors que je tenais la plume qui allait dicter le rythme de ma vie au cours des 4 prochaines années et qui symbolisait l'aboutissement de plusieurs mois de travail, Gaël, surpris, m'a glissé un timide « oui » à l'oreille. En cette soirée pluvieuse d'un magnifique automne que je n'ai pas vu filer, j'ai signé. Mais pourquoi ai-je signé? Pourquoi ai-je accepté ce pari fou de conduire la destinée de la métropole du Québec pour les années à venir? Je l'ai évidemment fait par conviction, parce que j'aime profondément Montréal, parce que les enjeux municipaux m'inspirent, parce qu'en tant que citoyenne, mère et cycliste, j'avais envie de léguer une ville en santé à mes enfants. Je l'ai aussi fait par goût du défi et par intuition. Un peu plus d'un an auparavant, à l'automne 2016, j'étais attablée avec des collègues qui discutaient de la course à la direction du projet Montréal, de Projet Montréal. La conversation a soudainement pris une tournure inattendue, tant pour mon parti que pour ma ville et ma vie. « Ce qu'il manque dans cette course, c'est une femme », a dit un collègue. « Tu devrais te lancer, Valérie », a dit l'autre. J'étais donc la femme de service dans la course à la chefferie. Une femme doit avoir énormément de détermination pour faire sa place en politique, sans repère, avec peu de modèles à suivre. Et pour briser le proverbial plafond de verre dans un univers dominé et codifié par des hommes. C'est en regardant cette montagne que se dressait devant moi que je me suis lancée. Lorsque j'ai réalisé que même mes proches n'auraient pas mis un vieux 2 sur ma candidature, j'ai décidé de tout donner. Je savais que je pouvais compter sur ma famille et sur l'énergie d'une équipe dévouée et investie. Cette équipe, elle m'a accompagnée dans mon quotidien et dans mon intimité, dans les meilleurs moments comme dans les plus difficiles. Au cours des derniers mois, nous avons vécu ensemble 3 événements décisifs qui font de moi la mairesse que je suis aujourd'hui. Au milieu d'un été qui tardait à débuter, on m'a présenté une campagne publicitaire audacieuse. Moi qui avais travaillé pendant des années à promouvoir des causes féministes, je deviendrais l'homme de la situation. Les réactions fusaient de tous côtés. J'ai d'abord hésité, puis j'ai osé ce pied de nez à l'ordre établi. Un mois plus tard, à la mi-septembre, devant une foule entassée au cabaret Lion d'Or, j'ai prononcé mon premier discours de campagne. Je ne voulais pas de texte ni de lutrin, seulement quelques fiches. Derrière le rideau, alors que je me concentrais sur ma respiration pour combattre la nervosité, je me suis promis de devenir la première mairesse de Montréal. Et c'est en arrivant sur scène que j'ai compris que pour l'emporter, je devrais tracer mon propre chemin. Ce soir-là, j'ai pris le contrôle de la campagne. Et c'est finalement le soir du 19 octobre que j'ai acquis la crédibilité nécessaire aux yeux des analystes, des observateurs et autres experts de la politique. Au cours d'un seul débat francophone de la campagne électorale, alors que peu de gens me croyaient capable de tirer mon épingle du jeu, j'ai démontré ma maîtrise des dossiers. J'ai démontré ma pertinence. J'ai démontré que la passion, la ténacité et l'intelligence peuvent mener plus loin que le traditionnel trio contact, argent et expérience. En 3 mois, ces moments mémorables ont fait basculer ma vie. Pour la victoire ne fait pas foi de tout, mais la victoire ne fait pas foi de tout. Pour une femme qui gravit les échelons, le syndrome de l'imposteur rôde toujours tout près. Ce doute, on le perçoit aussi à batailler pour conserver une certaine estime de soi. Pour pallier ce manque de confiance qui survient parfois, je me suis donné le droit d'essayer des choses et de me tromper. Dans l'adversité ou dans un combat qui semble perdu d'avance, on y gagne de la force. S'il y a une idée que je veux transmettre aux femmes et aux hommes, aux jeunes et aux moins jeunes, c'est que l'intuition et la volonté sont d'excellents moteurs. Elles ont orienté mon parcours et peuvent certainement guider les femmes qui souhaitent suivre cette voie. Je le répète, Valérie Plante est anthropologue et musicologue de formation, travaille de nombreuses années auprès de divers organismes communautaires. Elle a fait ses débuts en politique comme conseillère municipale dans le district de Sainte-Marie. I can take the heat. Guess I got a troubled mind. History repeats, and they say I got a troubled mind. And it won't let up, it's like a bad dream. They say I got a troubled mind. Shaking like a sad teen. Gotta say I got a troubled mind. The melody, no matter.
Nouveauté, Trouble Mind de Dan Mangan, le Vancouverois. Voilà.
Le Vancouverois. Cher Mathieu. C'est bon. Merci beaucoup, Catherine Emmanuel. La lettre que vous nous avez lue, on la réécouterait avec bonheur.
Ça fait plaisir.
Merci. Hélène Bédard au micro. Alors, nous sommes de retour après cette pause musicale. Pour quelqu'un qui est musicologue.
C'est étonnant, hein, oui, Valérie Plante, musicologue. On en a parlé un peu hors micro, voilà.
Oui, c'est cela. Alors, je vais plonger dans le sujet un autre moment. De mon côté, j'ai trouvé un très beau texte écrit par Stéphane Laporte en collaboration spéciale avec la presse. Et ça s'intitule ainsi, c'est « L'amour de la vie ». Nous avons tous entendu parler la semaine dernière. Kate Spade est l'une des reines de l'industrie de la mode. Ses sacs à main sont le nec plus ultra, du bon goût à la new-yorkaise. Une femme brillante, stylée et super riche. Quoi? Un bonheur de tous les instants. Un bonheur de tous les Instagrams. Mardi dernier, elle s'est donnée la mort. Anthony Bourdain est l'une des vedettes de la télévision les plus aimées de la planète. Chef cuisinier de formation, son émission Parts Unknown sur les ondes de CNN est un régal. Quand on le regarde, impossible de ne pas envier l'animateur. Il est charmant, raffiné, drôle, cultivé. Il parcourt le monde, mange divinement bien, reçoit les invités les plus prestigieux et rigole avec eux. La belle vie, quoi. Anthony Bourdain s'est suicidé le 8 juin. Deux symboles de succès, deux icônes de l'American Dream, décident d'en finir à quelques jours d'intervalle. Ça ébranle. De Marilyn à Anthony, en passant par Robin Williams et bien d'autres, les gens qui nous font rêver vivent souvent un cauchemar. Les émissions de Bourdain étaient remplies de joie. Comment un être qui transmet le goût de vivre peut-il le perdre sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on puisse rien faire, sans que personne n'arrête la spirale? Récemment, des gens de bonne volonté ont fait avancer le dossier de l'aide médicale à mourir. C'est grand, c'est important. Il en va de la dignité et de la liberté de l'être humain. Mais il y a un autre dossier qu'il faut faire avancer, un dossier prioritaire. C'est l'aide médicale à vivre. Vous me direz que c'est l'essence même de la médecine. Tous les efforts sont dirigés en ce sens. Aider à vivre malgré un cancer, une insuffisance cardiaque, un diabète, une pneumonie. On s'y attaque sans relâche. Mais aider à vivre malgré soi-même, le faisons-nous assez? Se tuer, c'est l'extrême des extrêmes. Alors que tous les réflexes sont guidés par l'instinct de survie, aller à contre-courant, avoir l'instinct du tueur, de son propre tueur, c'est la pire des maladies. Être son pire ennemi. Combien faut-il d'angoisse, d'anxiété, de peur et de désespoir pour en arriver là? Et la question qui ronge tous ceux qui restent, que pouvons-nous faire pour que quelqu'un ne parte pas, comme ça, de lui-même, et pour toujours? Il y a plein de volontaires qui s'y consacrent, des services d'aide, des services d'écoute, des ressources qu'il faut soutenir, avec plus de moyens, dans lesquels il faut investir si on veut gagner la guerre au mal de vivre. C'est un combat qui nous concerne tous. Il faut apprendre à aimer la vie, la vraie vie. Pas la fausse, pas celle de la beauté artificielle, du gros cash puis de la gloire illusoire. Non, la vraie, celle des rencontres, des moments de solitude, celle des grands jours de tous les jours, celle des succès, des échecs, celle des bonheurs, celle des peines. C'est bien beau de passer des heures et des heures au gym pour muscler son corps, mais que fait-on pour muscler son âme? On croit que d'obtenir l'apparence idéale va régler tous nos maux alors qu'il n'en est rien. Le plus grand voyage que l'on peut faire, c'est un voyage en soi. Ce n'est pas toujours aussi enlevant que ceux que faisait Bourdain à la télé, mais c'est le plus important. Toujours connaître chaque partie de soi, y ajouter de la lumière, ne rien laisser dans le noir. Ça prend autant de cours de philo que de cours de gymnastique. Il faut apprendre à se retrouver seul avec soi-même, sans tous les artifices qui nous distraient, qui nous gèlent, qui nous donnent l'illusion d'être bien quand on ne l'est pas. Il faut apprendre à faire face aux moments déprimants. Il faut accepter que la vie, ça ne va pas toujours bien, mais ça vaut la peine. Ça vaut toujours la peine. On a tout fondé sur le bonheur, alors quand il nous échappe, on perd le nord, on perd la tête. La vie, c'est cool aussi quand ça va mal, quand tout n'est pas parfait, quand on a des chagrins. Ces moments-là, ça nourrit aussi. Aimer la vie, c'est aimer tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Les suicides de personnalité provoquent des ondes de choc dans notre quotidien. On les reçoit comme une bombe. Comment se fait-il que des sources d'inspiration de millions de gens n'arrivent pas à s'inspirer elles-mêmes? On voudrait peut-être être eux et soudainement, on constate que eux ne veulent plus l'être. Je n'en démarre pas. Il faut plus mettre en valeur l'amour de la vie, l'amour des animaux, c'est important. L'amour de l'environnement aussi, l'amour du travail, l'amour de son prochain, bien sûr. Mais en haut de la liste, vivement, l'amour de la vie. Aimer tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle nous amène. En profiter jusqu'à la dernière seconde. La mort dure trop longtemps pour qu'on s'en la donne plus tôt. Il faut vivre, laisser vivre, aider à vivre. Mes condoléances aux familles et aux proches de tous les gens qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Que votre silence devienne un cri qui réveillera ceux pour qui il n'est pas encore trop tard. Alors voilà, le texte que j'ai terminé un petit moment plus tôt, et je l'ai puisé à même la presse, une collaboration spéciale de Stéphane Laporte, édité le 9 juin 2018. Pour faire suite à l'émission, Francine va nous entretenir de quel sujet maintenant?
Fraude au menu.
Oh, okay.
C'est pas évident de prendre la suite après un texte comme celui que vous venez de lire. Et notre Stéphane Laporte,
hein? Il
a toujours le mot juste.
Il nous touche tellement.
Il y a une grande enquête dans l'actualité qui a été menée par Valérie Borde. C'est sur la fraude au menu, donc en alimentation. Je vous parle rapidement de produits qui sont les plus à risque de fraude au Canada. L'huile d'olive, par exemple, où on la mélange avec d'autres huiles. Fausse indication sur la qualité, évidemment. Extra vierge, mais ce n'est pas toujours le cas. Poisson, substitution d'espèces, fausse origine géographique. Dans le sucré maintenant, miel et sirop d'érable, ajout de produits sucrants, du sirop de maïs, et de colorants, fausse origine géographique. Les jus de fruits, ajout de sucre, colorants et agents opacifiants pour donner l'air artisanal. Fausse indication sur le fruit, raisin ou pomme à la place de fruits plus coûteux. Café et thé. Substitution par des fruits ou feuilles d'autres plantes. Pois grillés, feuilles d'olivier. Fausse indication géographique. Épices. Substitution par des épices moins coûteuses. D'autres produits en poudre. Coque de noix, autres résidus. Ajout de colorants, dont le rouge sudant interdit dans l'alimentation. Produits biologiques. Ça, c'est plus dur en ce qui me concerne. Produits non certifiés, étiquettes mensongères. Dilution à l'usine par des produits non bio. Exemple, du jus fait d'orange bio et non bio. Certification expirée. Et enfin, je termine par les boissons alcoolisées. Contrefaçon de grandes marques. Fausse origine géographique. Mélange de vin, de raisin ou de concentré. Ajout d'ingrédients interdits dans la recette. Comme du sucre et des colorants. Alors, on en a assez. Je vous repasse la parole.
Alors, voilà pour faire suite à tout cela. Merci, Francine.
J'ai envie de poursuivre en inquiétant encore plus les auditeurs avec un article qui s'appelle « La cote d'un nouveau crédit social ». C'est un extrait d'un article de Rachel Bossman, publié le 21 octobre 2017 dans la revue Wired. D'ici quelques années en Chine, les citoyens seront évalués à l'aide d'une note, comme nous le faisons pour notre course Uber, notre séjour Airbnb et notre satisfaction au resto du coin. Voici quelques conséquences que pourraient subir les habitants aux scores les plus faibles. Les personnes dont les notes seraient faibles auraient des débits Internet plus lents, un accès limité au restaurant, aux boîtes de nuit, aux terrains de golf. On leur tirera le droit de voyager librement à l'étranger. Une restriction assortie, je cite, de mesures rigoureuses de contrôle de la consommation sur les lieux de vacances ou dans les agences de voyage. Ces évaluations conditionneront aussi la demande de location d'une personne. sa capacité à contracter une assurance, un prêt bancaire ou encore même son accès aux avantages sociaux. Les inscriptions dans les écoles privées assurées des salaires haut niveau seraient également interdites aux citoyens au faible score ainsi qu'à leurs enfants. Je n'invente rien de cette liste de sanctions. Il s'agit bien de la réalité à laquelle les Chinois seront bientôt confrontés.
Eh bien, merci. Écoutez, nous allons devoir vous quitter un court moment, le moment d'une pause. Et restez avec nous parce que nous poursuivons avec l'émission Les Voix de Service Magazine tout de suite après cette pause. Merci.
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je l'ai mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Ah, j'ai tombé en amour avec une espionne russe. Si tu veux qu'on dise au juste, on a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit, quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus, mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Joseph Arthur, pour ceux qui ont aimé, Joseph Arthur sera sur la scène Sirius XM ce soir à 19h dans le cadre des Franco.
Eh bien, nous voilà de retour à l'émission Les Voix de Service Magazine et je vais, Hélène Bédard au micro, alors je vais d'emblée vous faire part d'un texte, évidemment ça c'est mon auteur chouchou, elle s'appelle Noémie Mercier et elle écrit dans l'actualité. Et c'est un texte qui est paru en mai, 11 mai 2018, donc très récent,
Et ça s'intitule comme ceci. Le Harvey Weinstein en nous. La tendance à abuser du pouvoir est une tare profondément humaine à l'égard de laquelle il nous faut exercer notre vigilance. On l'a constaté dans tous les milieux secoués par le mouvement « Moi aussi », les derniers mois, la violence sexuelle carbure aux écarts de pouvoir entre les sexes. Mais pourquoi donc? Est-ce le pouvoir lui-même qui éveille chez certains hommes la propension à exploiter plus faible qu'eux? Depuis plusieurs années, des chercheurs en psychologie sociale mènent toutes sortes d'expériences afin de comprendre comment le pouvoir transforme ceux qu'ils détiennent. Leurs travaux confirment ce que les historiens et philosophes ont longtemps soupçonné, le pouvoir tend effectivement à corrompre. Les puissants ont tendance à manquer aux règles de la bienséance, voire à celles de l'éthique et de la morale. Ils peuvent se montrer égocentriques et peu sensibles aux émotions d'autrui. Ils se comportent de manière désinhibée et sont portés à traiter les autres comme des objets. Or, nous sommes tous vulnérables au côté sombre du pouvoir. Ces comportements toxiques ont été observés chez des gens ordinaires qu'on a placés artificiellement en position de force le temps d'une simulation dans un laboratoire d'université. Par exemple, dans une expérience menée par Dasher Keltner de l'Université de Californie à Berkeley, on a formé des équipes de trois, dans lesquelles une personne a été choisie au hasard comme leader, responsable d'évaluer la contribution de ses coéquipiers à une tâche commune. Cette nomination, bien arbitraire, a suffi pour que le chef s'arroge un petit privilège. Lorsqu'on apportait un plateau à biscuits à partager, c'est lui qui, le plus souvent, s'emparait du dernier morceau. Dans une autre expérience, on a permis à des volontaires de se servir dans un pot de bonbons en prenant soin de leur dire que les friandises étaient destinées à des enfants dans une pièce voisine. Les gens qu'on avait auparavant amenés à se sentir puissants, donc en les incitant à se comparer aux personnes les moins nantis, les moins instruites, les moins respectées, bien ceux-là ont pris plus de bonbons que les autres. Les mêmes chercheurs ont aussi observé que le simple effet de s'imaginer au sommet de l'échelle sociale pouvait nous rendre soudain moins empathiques et charitables. Sous l'effet d'une posture mentale de supériorité, nous devenons moins bons pour déchiffrer les émotions sur les visages et nous estimons devoir donner une moins grande part de nos revenus à des œuvres de bienfaisance. Or, il y a des raisons de croire que ces glissements moraux peuvent aussi empoisonner nos rapports avec le sexe opposé. Deux chercheurs de l'Université de l'État de Floride ont publié en 2010 dans le Journal of Personality and Social Psychology, une étude sur ce qu'ils appellent la superception sexuelle. Selon leur recherche, les gens qui se retrouvent au pouvoir, même de façon passagère, ont tendance à sexualiser leurs subordonnés, y compris dans des contextes qui n'ont rien d'érotique. Dans le cadre de cette expérience, des hommes et des femmes ont été placés en équipe de deux afin d'assembler des structures en cubes Lego. Dans certains duos, l'homme et la femme étaient sur un pied d'égalité. Dans d'autres, pairs, l'un des deux était le chef qui décidait seul de la marche à suivre et de la récompense à attribuer à son partenaire. Les patrons, bien plus que les autres joueurs, étaient persuadés que leur vis-à-vis leur portait un intérêt sexuel ou romantique. Et par conséquent, ils se conduisaient de manière plus attrayante par des touchers plus appuyés, une plus grande proximité physique ou des regards insistants, notamment. Mais ils se trompaient. Les subalternes n'éprouvaient pas d'attirance particulière pour leur supérieur. C'était une vue de l'esprit, une autre illustration de la manière dont le pouvoir peut rendre égocentrique et aveugle, au point de nous faire croire que les autres existent pour combler nos désirs. Remarquez que les femmes ne sont pas à l'abri de ce phénomène. Bien que de façon générale, les hommes de l'étude prêtaient davantage d'attention sexuelle à leurs partenaires, les femmes aussi sexualisaient leur interaction lorsqu'elles devenaient patronne. La tendance à donner du pouvoir ne serait donc pas le fait d'être spécialement malade ou vicieux, mais une tentation profondément humaine. Que cela ne serve jamais à excuser le genre de violences qui sont reprochées à Harvey Weinstein ou à Gilbert Rozon. Que cela nous inspire plutôt la vigilance à l'égard des réflexes malsains que le pouvoir peut déclencher en nous et que cela nous mette en garde contre les systèmes qui permettent à quiconque de régner sans partage. Alors, un texte de Noémie Mercier de l'actualité, mai 2018. Merci.
bien voilà, nous poursuivons avec un texte qui va vraiment dans la suite de cette première lecture. À toi, Francine.
Disons qu'il y a un point commun, et le point commun, c'est l'excellente journaliste Noémie Mercier, qui a rencontré Valérie Pisano. Cette rencontre dont elle nous fait part dans l'actualité de juillet 2018. Alors, Valérie Pisano est économiste et spécialiste de l'équité homme-femme en entreprise. Elle vient d'être nommée à la tête de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, le fameux MILA dont on a souvent parlé avec Joshua Bingjo, où elle entend veiller à ce que l'essor de cette technologie bénéficie au plus grand nombre. L'intelligence artificielle à l'échelle humaine, donc cette entrevue de Valérie Pisano. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous retrouver PDG dans un secteur très majoritairement masculin? C'est un milieu où il y a un enjeu majeur de recrutement. Une partie de la réponse à cet enjeu est de trouver une façon d'encourager plus de femmes à se diriger vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. On a un réservoir de gens hyper talentueux à nos portes. Mais pour plein de raisons, à partir d'école secondaire, les filles vont moins vers ces milieux. Je suis super enthousiaste à l'idée de prendre ce que je connais sur le sujet et de voir ce que le MILA pourrait faire pour créer une culture où beaucoup plus de jeunes filles et de jeunes femmes poursuivront des carrières scientifiques. Pourquoi est-ce important? Les gens de ce secteur se trouvent à concevoir de l'intelligence artificielle qui, elle, prendra des décisions pour nous. Il est donc fondamental que cette recherche, ces programmes, soient alimentés par une richesse de perspectives diverses. Sinon, c'est le point de vue d'un seul groupe qu'on continuera de perpétuer. Quel lien souhaitez-vous nouer avec le secteur privé? Demande Noémie Mercier. Et de répondre Valérie Pisano, c'est un des éléments clés de la mission du MILA. D'abord, faire avancer la recherche fondamentale, puis transférer ce qu'on découvre vers des applications réelles, d'affaires, industrielles, notamment par l'intermédiaire de jeunes pousses montréalaises. Il y a des PME québécoises qui rayonnent partout dans le monde. C'est cette courroie entre la recherche et l'entreprise qui générera de la croissance économique et qui va faire que Montréal demeurera un pôle mondial de l'intelligence artificielle. La responsabilité sociale fait partie des valeurs du MILA. De quelle façon est-ce que cela s'incarne? On va bientôt adopter un nouveau slogan, l'IA pour l'humanité. C'est un pilier qui tient énormément à cœur à tous les gens qui ont choisi le MILA plutôt que d'aller travailler, par exemple, pour une grande entreprise qui leur offrirait sûrement, probablement, de plus grands moyens financiers. On veut avoir des répercussions positives sur la société et un dialogue socialement responsable sur l'IA. Ce qu'on essaiera de faire prochainement, c'est de déterminer les industries avec lesquelles on veut travailler pour s'assurer que non seulement on pousse la recherche, mais qu'elle est appliquée dans des secteurs de l'économie auxquels on croit fondamentalement. Il y a des industries avec lesquelles il est hors de question qu'on fasse affaire, comme l'industrie militaire. Et il y a d'autres qu'on va fortement prioriser, comme la santé et l'environnement. Pour le reste, on est encore en discussion. Ça fait partie de mon mandat de définir cette vision stratégique. Alors, c'était Noémie Mercier qui est allée à la rencontre de Valérie Pisano, la nouvelle patronne du MILA, dans l'actualité, juillet 2018.
Catherine Emmanuel poursuit avec...
Oui, avec le nouveau projet, c'est une section qui s'appelle « Histoire des communications ». C'est un article de Robin Panfil qui a été publié le 6 octobre 2017 dans le magazine en ligne Slate.fr que reprend ses nouveaux projets sous le titre « Le premier réseau social n'a pas dit son dernier mot, 10-4 ». Atlantic City, le 2 octobre 1947. Sans que personne s'en rende évidemment compte, la CB, premier réseau social grand public du monde, est en train de naître. En ce jour d'automne, sur la côte est américaine, lors d'une conférence comme il s'en organise des centaines chaque jour, se prépare la répartition des fréquences hertziennes entre les services de radiodiffusion, les forces armées ou encore les services médicaux américains. L'une d'entre elles, la bande du 27 MHz, ne trouvera pas preneur. Trop instable, trop polluée, trop imprécise et donc guère fiable pour assurer des liaisons performantes dans un cadre professionnel, elle se voit abandonnée par les militaires et les services de secours qui s'en servaient jusque-là. La bande est donc laissée à la libre utilisation des citoyens. En surproduction, le matériel de diffusion qui lui était jusqu'alors réservé est réformé et mis à la disposition du public dans des magasins de surplus militaire. La CB, pour Citizen Band, entame dès lors sa propre petite révolution en se mutant en outil de communication mobile permettant de discuter et d'échanger à distance. Au milieu des années 1970, on compte jusqu'à 30 millions d'utilisateurs américains. C'est à ce moment-là que le phénomène arrive en France. Des chauffeurs routiers et des particuliers s'équipent en masse alors que des associations et même des titres de presse spécialisés voient le jour. À cette époque, on trouve des CB à vendre à peu près partout, jusque dans les rayons et les supermarchés. Pour ses utilisateurs et ses plus fervents défenseurs, la CB offrait, et offre encore, un espace de dialogue, de partage et d'entraide unique. Le premier réseau social grand public du monde aime à rappeler Dundee 33, CBiste passionné depuis 1983. Un espace virtuel régi par son propre jargon et son propre code éthique prônant la convivialité, le respect des stations, des échanges amicaux, dans la tolérance et la patience. Il ajoute, pour les routiers français comme pour les Américains, c'était un moyen de faire passer le temps sur les longs trajets. Et puis, il y avait aussi la volonté de s'en servir pour se refiler les bons tuyaux, trouver l'adresse d'un client, un bon restaurant ou un endroit pour passer la nuit. Pour Jean-Guy alias Pharaon 85, la CB a même été salvatrice. Handicapé de naissance, il s'est fait connaître en tant que radio-guideur à partir de 1991. Depuis un poste fixe installé chez lui, il répond aux appels de routiers circulant dans son secteur pour les aider à trouver leur chemin. À cause de mon handicap, j'ai toujours eu besoin des autres pour me déplacer, pour porter mon cartable. La CB m'a permis de renvoyer l'ascenseur et de me rendre utile, nous confie-t-il. Derrière le micro, on ne voyait pas mon handicap. Aujourd'hui, que reste-t-il de la communauté CBiste française? Rien qu'à elle, la Fédération française de la Citizen Band Libre réunit encore près de 46 associations de passionnés. La CB est toujours en usage aujourd'hui, insiste Dundee 33, mais de manière un peu plus confidentielle. Il est impossible de référencer précisément le nombre d'utilisateurs actifs en France, contrairement à ceux des téléphones portables, par exemple. Les routiers ont davantage tendance à s'en servir comme d'un radio-téléphone, nuance-t-il. Plusieurs petits groupes disposent de leur propre canal de discussion sur lequel ils se retrouvent régulièrement. Ils passent leur journée dessus, même s'ils ne parlent pas. On y voit là très bien le reflet de l'utilisation des réseaux sociaux actuels. Mais les usages ont évolué et la CB ne jouit plus de son rayonnement d'antan. Déjà à partir des années 1980, quelque peu dépassé par l'ampleur du phénomène, les pouvoirs publics avaient tenté de légiférer sur la question. Un serrage de vis qui a entraîné de nombreux contrôles de matériel, mais également permis de faire déguerpir les CBistes indésirables. L'encombrement des ondes en a découragé bien d'autres. À cause du nombre grandissant d'utilisateurs plus ou moins expérimentés, des chauffeurs étrangers, des amateurs, des curieux, des jeunes venus uniquement pour s'y amuser, il est devenu de plus en plus difficile de faire respecter les règles élémentaires de la communication CBiste, qu'il s'agisse de l'utilisation du jargon adéquat ou du respect du protocole de prise de parole sur les ondes. Et avec l'arrivée des GPS, des applications anti-radar de l'Internet, des forums de discussion ou des applis vocales mobiles, plus vraiment besoin de la CB pour indiquer des itinéraires, anticiper des embouteillages, signaler les barrages policiers ou tout simplement pour discuter. Mais voir la CB comme un outil obsolète et désuet n'est toutefois pas une impression unanime dans la communauté CBiste. Elle propose encore et toujours un autre avenue à l'homme moderne pour sortir de son isolement en multipliant à l'infini les possibilités de rencontre et de libre expression. Vous allez à la pêche, au contact, sans savoir vraiment ce que vous allez ramener. Mais c'est ça le côté excitant de la radio. Se réjouit Dundee 33. We'll be right back.
Nous revoilà en studio. Voilà, pour faire suite à cette ébauche de réseau social, moi, je vais vous parler des aînés à l'ère 2.0. Alors, c'est un texte de Marie-Pierre Baudin qui est paru à TVA, mais le poste CIMT. Voilà, excusez-moi. Je vais vous parler de ces gens-là. Elles sont en moyenne 85 ans et se lancent dans l'ère 2.0. Des aînés de la résidence Desjardins à Saint-André-de-Kamouraska s'initient aux tablettes électroniques. Si certaines réussissent haut la main, d'autres trouvent l'expérience un peu plus ardue. À 86 ans, Rita Saint-Pierre communique avec ses proches sur Messenger en quelques doigtés sur sa tablette. « Je ne pensais pas être capable d'apprendre ça. Finalement, j'ai réussi. Ça m'a pris trop de temps. J'aime ça. » a-t-elle lancé en souriant. D'autres aînés écoutent de la musique ou s'amusent avec des jeux électroniques. C'est le cas de Madeleine Toutain, une femme de 94 ans, qui s'applique à faire un jeu de patience sur sa tablette. « On m'a dit que c'était un jeu intelligent, » dit-elle en riant. Pour Elisa Plourde, c'est la lecture qui a piqué sa curiosité. Elle lit désormais des livres électroniques sur une tablette, un petit roman, a expliqué cette dame de 88 ans. Des histoires comme celle-là se comptent par dizaines dans cette résidence pour personnes âgées. La direction de cette résidence a lancé ce projet pilote. Grâce à une subvention du programme Québec Amis des aînés du ministère de la Famille, les résidents bénéficient d'un accompagnement dans l'utilisation des tablettes électroniques. Pour ces femmes qui ont vu apparaître les technologies en matière de communication, c'est toute une révolution. Les résidents ont aussi des enfants, des parents à l'extérieur de la région. On va leur montrer comment faire pour leur parler. Le projet devient de plus en plus populaire, fait remarquer l'animatrice de l'atelier d'initiation à la tablette, Mme Micheline Rodrigue. L'utilisation de la technologie n'est pas naturelle pour tout le monde, mais ces personnes âgées ont définitivement une volonté d'apprendre. Gisèle Lapointe dit « J'ai de la misère, le Python, c'est pas mon truc », avoue une participante à cet atelier, dont Mme Gisèle Lapointe, qui a 85 ans. « Je ne connais pas tout encore, mais je peux correspondre avec ma famille sur Messenger, puis aussi sur Facebook, j'envoie des choses », a ajouté une autre dame de 81 ans. « Il n'y a rien que les messages que je n'ai pas et je veux l'avoir, et je vais finir par l'avoir. Je vais m'occuper de l'avoir », souligne Carmen Denis, 82 ans. Et pour Joyce Jarvis, l'apprentissage se fait un peu plus difficilement, mais elle ne lâche pas le morceau pour autant. Il y a des pitons que j'ai de la misère. Je pèse sur les pitons, je pèse, ça tourne. Bon, je veux apprendre, je le veux vraiment, a témoigné cette femme de 81 ans. Alors donc, c'est une initiative qui démontre qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors, je laisse la parole à Francine Forget. Merci.
Merci, Hélène. Pour faire plaisir à Mathieu, parce qu'au cours des deux dernières semaines, on a été constamment... oh là là, ça flash dans le studio! On a été constamment en compagnie de Dr. Google. Alors, dans Québec Science, le mois de mai, on a pris les 50 questions qui sont le plus souvent posées à Google. Et donné des réponses. Hein. Alors, on en a fait un certain nombre. On regardait les bobos de Mathieu, mes bobos. Puis là, on va parler de gérer son stress parce que là, les médias sociaux, des fois, ça nous donne du stress. Hein?
Et oui.
Oui, c'est et ça. Oui. Alors donc, les trucs de Marie-France Marin, qui est chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, pour mieux gérer son stress. Bouger. Alors, le cerveau ne fait pas la différence entre un stresseur absolu, comme être en zone de guerre, et un stresseur relatif, comme un examen à l'école. Dans les deux cas, il relâche les mêmes hormones, l'adrénaline et le cortisol, qui mobilise l'énergie pour affronter la menace. Mais en 2018, dans 99 % des cas, personne n'utilise cette énergie. On sent alors un bouillonnement intérieur. Il faut évacuer en s'activant, par exemple, en prenant l'escalier après une réunion super stressante ou en faisant des pompes. On évite ainsi de sortir le trop-plein d'une mauvaise façon en étant agressif avec un proche. Un autre truc, respirer en gonflant le ventre, chanter ou rire. Les gens ne croient pas vraiment ces trucs. Pourtant, le mécanisme est logique. En respirant avec le ventre, le diaphragme s'étire au maximum. Quand ce muscle est étiré, la réponse de stress, les hormones, est freinée. C'est simple. Si vous entrez dans un dépanneur et que quelqu'un vous met un fusil sur la tempe, c'est sûr que vous allez retenir votre respiration. Respirer à plein poumon indique donc au cerveau qu'il est impossible que votre vie soit en danger. C'est le même principe pour le chant et le rire. Se trouver des plans B. Si on menace de couper des postes au boulot et que ça vous stresse, vous pouvez mettre votre CV à jour et regarder les offres d'emploi. Le plan B peut également être farfelu. Y réfléchir stimule le lobe frontal, une partie du cerveau qui se désactive quand on est devant un grave danger. Ça indique encore une fois que notre vie n'est pas menacée, puisqu'il y a une porte de sortie. Et enfin, tenir un journal du stress. Ce truc demande plus de travail, mais puisque le stress contribue à beaucoup de maladies, ça vaut le coup. Notez chaque jour toutes les situations qui vous angoissent. Ouf. Il faut ensuite lier chacune d'entre elles à l'un des quatre facteurs que la littérature scientifique a déterminés. Est-ce une situation nouvelle? Une qui diminue votre sens de contrôle, qui est imprévisible ou qui pose une menace à votre ego? On retourne ensuite la situation. Comment faire pour diminuer l'effet de nouveauté ou augmenter votre impression de contrôle si vous décrochez un nouveau poste, par exemple? Ce peut être de discuter de votre nouveau poste avec la personne qui l'occupait auparavant. Alors, comment mieux gérer son stress? Les trucs de Marie-France Marin. Je rappelle que c'est en Québec Science de mai 2018, dans finalement l'enquête, les 50 questions posées le plus fréquemment à Google et les réponses apportées par Québec Science.
Monsieur une minute. En terminant, je voudrais juste vous dire que nouvelle machine distributrice qui est apparue à Sydney, en Australie. Plutôt que d'y trouver chocolat et croustilles, les passants peuvent y acheter un paquet de confiance en soi et de bravoure sous forme de cartes, origami et autres. Alors, c'était fait en collaboration avec les psychiatres et psychologues et ça permet de récolter des fonds au bénéfice d'organismes œuvrant en santé mentale. Je vous laisse sur cette note très fort plaisante. Alors, nous voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie mes collaboratrices. Merci, Francine.
Merci beaucoup, Hélène. Et encore une fois, je radote, mais... c'est le fun de vous avoir avec moi aujourd'hui.
Très contente d'y être aussi. Merci, Catherine.
Merci beaucoup, Hélène. Bonne semaine.
Bonne semaine. Merci, Mathieu. Alors, nous vous retrouvons vendredi prochain. Portez-vous bien.